profiter donc, pour commencer cette table ronde au sujet d'un personnage, d'un auteur majeur du début du XXe siècle qui, dans notre grande série de faire de la nouveauté avec des vieilleries, se pose un peu là, c'est-à-dire c'est Howard Lovecraft. Lovecraft, c'est presque autant que son œuvre une créature mythique, et nous allons essayer avec nos quatre amis ici de vous en parler d'une façon différente que celle que vous pouvez entendre d'habitude. Nous allons l'évoquer dans son biotope, c'est-à-dire à son époque, dans les pubs dans lesquels il a publié, mais on va aller au-delà, on va se rendre compte que finalement c'est un auteur qui a souffert de beaucoup de méconnaissances et qui aujourd'hui se révèle comme quelqu'un d'extrêmement important et qui... excusez-moi. Ah oui, non, c'est pas Toulouse.
Il fallait l'en faire.
Ça marche plus jamais, ça, quand même. Voilà. Et donc, c'est un auteur qui a un retentissement moderne. Et pour parler de ce retentissement, nous avons fait appel à quatre spécialistes qui, vous en rendrez compte, sont des hybrides lovecraftiens eux-mêmes et qui connaissent l'œuvre sur le bout de leur tentacule. Pour commencer, nous avons Christophe, qui est responsable d'une maison d'édition Grand et Malpertuis et qui a écrit ou participé à des ouvrages collectifs sur Lovecraft. Gilles Menegaldo, qui est un universitaire qui vient de sortir aux éditions du Visage Vert un volume inspiré d'un colloque lovecraftien et qui a aussi bénéficié d'un rajout d'articles sur les thèmes lovecraftiens. Des thèmes assez originaux dont il aura la possibilité de parler un peu plus tard. Alex, oh, décidément, je vais jeter ce téléphone.
Le modérateur.
Ouais, je perturbe. Donc Alex, qui est aussi un spécialiste lovecraftien, dans son œuvre graphique, c'est le premier de nos invités graphiques.
Enfin, je suis
scénariste, oui. Mais disons, dans une œuvre, dans des bandes dessinées, mais une œuvre plus intégralement personnel, c'est-à-dire un roman qui a quand même une influence lovecraftienne certaine, et puis va-t-il nous apprendre une continuation qui devrait paraître d'ici peu.
Une biographie en bande dessinée de Lovecraft qui doit sortir en février prochain.
Voilà. Et enfin, François qui est à ma gauche, qui est responsable d'un magnifique album qui est déjà en rupture, semble-t-il, et qui illustre d'une façon moderne l'appel de Cthulhu, un texte fameux de son auteur, et selon une scénographie assez originale. Donc il nous parlera probablement, et puis peut-être de ses suites, parce que les amateurs semblent demander à ce qu'il y ait autre chose. Voilà. Bon, on va commencer par évoquer la carrière, les débuts de Lovecraft, et l'origine de sa littérature, les publications dans lesquelles elle est apparue, ses difficultés, les difficultés qu'il a rencontrées à se faire publier et qui seront certainement à l'origine d'un certain nombre de légendes sur l'auteur, sur son œuvre, et la mythologie. Qui veut commencer à évoquer, peut-être, Christophe, l'origine de Lovecraft en tant qu'auteur de fantastique américain?
Un petit mot d'abord qui s'impose, je ne sais pas si on m'entend bien. Lovecraft, c'est quelqu'un qui a écrit depuis très, très jeune, depuis son enfance, inspiré par des histoires qu'il lisait ou qu'il entendait raconter. Bon, on cite beaucoup à son propos « Les mille et une nuits », et puis les grands recueils illustrés par Gustave Doré, comme « Le dit du vieux marin », etc., de Coleridge. Donc des choses qui l'ont beaucoup inspiré dans la direction du fantastique, et puis plus tard, bien sûr, Edgar Poe. Et à travers ses premiers écrits fantastiques, écrits pendant son enfance, mais aussi à travers un certain nombre de choses qui ne sont pas de la fiction, qui sont des essais en rapport avec la chimie ou l'astronomie, eh bien, il a fait de l'autopublication dans ses 8, 9, 10 ans, 12 ans, avec un petit matériel qu'il avait chez lui. Et donc, voilà, on peut dire que ses premières publications, c'est du fait maison. Et l'étape qui lui a fait accéder à une sorte de publication plus réelle, peut-on dire, c'est sa découverte du monde de ce qu'on appelait à l'époque le journalisme amateur, qu'on appellerait plus tard le fandom d'une certaine manière. Enfin, c'était des gens qui se regroupaient en association. Chacun d'eux rédigeait, ou en collaboration ou bien seul, sa propre revue sur des thèmes variés qui pouvaient être généralistes, poétiques, régionalistes ou toutes sortes de choses. Et à travers l'association, ces revues circulaient d'un membre à l'autre. Et donc c'est grâce à ce brusque apport de contact que Lovecraft a pu avoir et qu'il a sorti d'un certain isolement dans lequel il vivait, qu'il a pu avoir l'occasion de publier et d'être lu. Alors beaucoup de poèmes qu'on jugerait aujourd'hui pas très intéressants, voire choquants par leur racisme ou leur nationalisme, et puis également des petites nouvelles fantastiques qui parfois ont eu un destin intéressant, puisqu'elles ont été plus tard republiées dans des pulps. Donc peut-être quelqu'un peut passer à l'étape des pulps.
Oui, Alex, tu veux parler des pulps. On peut mentionner quand même, Christophe a évoqué l'aspect raciste et nationaliste des poèmes de Lovecraft, c'est vrai. Mais souvenons-nous qu'à l'époque, dans les États du Sud, la ségrégation était un système politique parfaitement accepté. Gardons-nous d'observer cette époque avec une loupe déformante.
Oui, mais je sais pas si je peux rajouter quelque chose par rapport à ça. Il était marqué quand même par son expérience à New York, puisqu'il vivait à Providence, hein, comme vous savez. Et quand il est allé à New York, pour essayer justement d'exercer, de trouver un travail, on lui a même proposé à un moment donné de prendre la tête de la rédaction d'une revue, justement, de Weird Tales, qu'il a refusé.
À Chicago.
Ouais. Mais donc il a refusé. Mais en tout cas, il a passé un certain temps à New York. Il a été à la fois au départ fasciné, ébloui par la fameuse skyline de Manhattan, etc. Il en parle dans sa correspondance, qui comporte à peu près 100 000 lettres, hein, donc, dont une petite partie était publiée aux États-Unis en 5 volumes chez Arkham House, et dont un seul volume est paru en France, jusqu'à présent en tout cas. En tout cas, donc il a été frappé aussi, évidemment, par le côté cosmopolite à l'époque de New York et toutes les vagues d'immigration successives depuis la fin du 19e. Et évidemment dans les années 20. Et c'est ce problème, disons, de relation avec l'autre, hein, pour dire, se retrouve à la fois dans ses poèmes, comme ça vient d'être dit, mais aussi dans certains textes, dans certains textes de fiction, dont certains ne sont pas forcément très bons, d'ailleurs, littérairement parlant. Je pense à La Rue, hein, il décrit une rue et l'évolution de cette rue depuis, disons, les grands-pères fondateurs puritains jusqu'à l'époque moderne, en disant comment cette rue se transforme au contact, justement, en fonction des flux d'immigration, etc. Et effectivement, il y a tout un côté fantasmatique et effectivement raciste, quand même, dans ce voilà. Mais je suis d'accord avec toi qu'il faut replacer dans un contexte, quand même, à l'époque, xénophobe et absolument parfois raciste. Voilà. Et pour dire aussi, peut-être une petite nuance, que c'est parmi ces relations, il y avait, alors qu'il était accusé, qu'il a tenu des propos antisémites, et qu'on trouve aussi des propos antisémites dans sa correspondance, il avait des amis juifs, il avait même épousé Sonia Green, qui était donc une jeune femme d'origine juive. Voilà. Donc cette expérience, en tout cas, a été traumatisante pour lui, et en même temps, évidemment, extrêmement féconde sur le plan littéraire. Et quand il a passé à Providence le reste de son existence. Mais contrairement à ce qu'on a pu dire, là aussi, c'est un cliché, mais qui a été remis en cause déjà, et assez récemment encore dans le volume ActuSF, mais déjà dans d'autres travaux, il n'a pas été reclus. Il a, d'une part, il a beaucoup correspondu avec des gens, mais il a aussi fait un certain nombre de voyages, notamment au Québec, hein, trois voyages au Québec et en Louisiane. Voilà, donc il a beaucoup voyagé, malgré tout, en fonction aussi, sans doute il aurait voyagé plus si ses moyens financiers avaient été plus importants. Il y a aussi cet aspect-là.
Il prenait les bus de nuit, justement, pour absolument économiser les chambres d'hôtel et ce genre de choses.
Voilà, tout à fait. Voilà, donc sur les pulps.
Alors, les pulps, ce sont des revues populaires, ce qu'on appelait aussi les dime novels, les journaux, enfin les romans à 10 sous. Ce sont des magazines imprimés sur un très mauvais papier, sur un papier de qualité inférieure au papier journal, hein, pour situer, et qui valait 10 cents, d'où le nom de dime novels. Et c'était vraiment la forme de littérature populaire de l'Amérique de la première moitié du XXe siècle. Et c'est là qu'on voit apparaître des auteurs qui ont fait carrière par la suite. Hein, Ray Bradbury a commencé là-dedans. Edmond Hamilton, le capitaine Flamme, était un personnage de Pulps avant d'être un personnage de dessin animé. Pas mal de gens qui ont fait carrière aussi dans la bande dessinée par la suite ont démarré là-dedans. Et celui auquel Lovecraft a le plus collaboré, c'est Weird Tales, les histoires étranges, en traduisant rapidement, dans lequel il était... il se retrouvait au sommaire aux côtés de Robert Howard, l'auteur de Conan, de Conan et de Solomon Kane, de Clark Ashton Smith, de Catherine Limour et de pas mal d'autres auteurs qui sont devenus des légendes de la science-fiction et du fantastique. C'était des choses qui payaient très mal, mais qui permettaient d'être publiées. Et on était vraiment dans une littérature complètement populaire. Donc certains de ces trucs étaient très mal écrits. Ron Hubbard a commencé là-dedans, et c'était un statianoviste du pulp avant d'être un fondateur de secte. Il a eu plus de succès comme fondateur de secte que comme auteur, d'ailleurs. Mais...
la scientologie, pour ce qui
Hubbard était un des millionnaires du pulp, et qui a gagné énormément d'argent. Il avait un train de vie comparable à celui de Walter Gibson, l'auteur du Shadow. Ils étaient quand même quelques auteurs très très prolifiques qui gagnaient très correctement leur vie. Après, il ne s'est pas singularisé par la qualité de son
œuvre. Clairement pas. Mais ça a été une blessure pour Lovecraft d'ailleurs de n'être jamais imprimé en volume relié de son vivant. Le seul texte qui a été relié de son vivant, c'était une impression amateur faite par le jeune Robert Barlow, qui a imprimé et relié à une vingtaine d'exemplaires un de ses textes. Mais sinon, il a toujours été cantonné à ses magazines. Et il en souffrait clairement, parce qu'il estimait que le lectorat des pulps était un lectorat un petit peu inférieur, populaire et indigne de lui. C'était quelqu'un d'assez conservateur. Un de ses premiers journaux amateurs s'appelait d'ailleurs le Nouveau Conservateur.
Le New Conservateur.
Oui. Et la seule autre fois où il aurait pu être publié en recueil, c'était sur, non pas pour de la fiction, mais pour un texte polémique sur l'astrologie, où il s'attaquait, comme c'était quelqu'un de philosophiquement d'un matérialisme radical, Harry Houdini, le roi de l'évasion, qui était aussi un chasseur de charlatans chevronnés, lui avait proposé de coécrire un livre qui tordrait le cou à, entre autres, l'astrologie et un certain nombre d'autres superstitions. La mort d'Harry Houdini a coupé court au projet quelques semaines après qu'ils se soient mis d'accord dessus.
Il a collaboré avec Houdini.
Aussi pour un texte
de fiction. Prisonnier des pharaons.
Avec une couverture de Prisonnier des pharaons.
Oui. C'est la suite de ça que Houdini l'avait contacté pour le cancer de la superstition.
Pour le livre d'anecdote, il a participé à un déjeuner avec Greenberger, le propriétaire de Vertel, c'est Houdini. Pour concevoir ces histoires qui ne sont jamais parues. C'était pas l'ermite, donc.
Je voudrais couper un tout petit cheveu en quatre parce qu'il a son importance par rapport à Lovecraft. À propos des pulp et des dime novels, les pulp, effectivement, c'est ces magazines dont on a parlé avec un certain nombre d'auteurs au sommaire et puis une orientation thématique. Donc, Weird Tales, c'était un pulp de fantastique, des trans, d'horreur. Les dime novels, c'est un petit peu plus vieux. Ça se rapproche plus de ce qu'on a connu en France avec la littérature en fascicule. Comme son nom l'indique, c'est un texte unique, un auteur unique. Et Lovecraft en a dévoré pendant sa jeunesse. Il y avait beaucoup dans ses textes de petites histoires morales, mais également beaucoup d'histoires de détectives, des succès d'années de Sherlock Holmes, si on veut, dont Lovecraft a été un grand fan. Il y avait des noms qui nous sont un petit peu parvenus jusqu'à nous, comme Nick Carter, et qui faisait l'objet donc de ces petits fascicules avec une histoire, hein, des mini-romans, on peut dire, qui a poussé, alors pour l'anecdote, qui a poussé Lovecraft pendant son enfance à créer avec ses copains une agence de détectives, qui était un jeu entre eux, bien entendu, mais ça montre qu'ils étaient tous fans de cette petite littérature qui était considérée comme pour les jeunes, pour les enfants, pour les gens non éduqués. Lovecraft s'est plaint par la suite que ce style pressé, ce style de tirage à la ligne, avait marqué son style d'une manière dont il avait eu beaucoup de mal à se défaire.
Oui, je peux juste me dire un mot aussi. Je crois que le style de Lovecraft ne correspondait pas du tout à ce que souhaitaient les pulps. Donc beaucoup de ses textes ont été refusés, y compris par les éditeurs des pulps successifs. Et ça l'a aussi beaucoup. Et alors, en plus, il avait des problèmes avec il aimait pas taper ses textes à la machine à écrire. Et souvent, c'était ses amis, ses proches collaborateurs, ses amis proches, qui tapaient ses textes pour qu'ils puissent être représentés, justement. Ça a été le cas, et même, par exemple, d'un texte très connu maintenant, comme Les Montagnes Hallucinées, a été refusé par l'éditeur de Weird Tales.
Le manuscrit est très cochon.
Oui. Voilà, non, c'est juste une, pour ajouter une, un petit détail.
Oui, on peut même dire que ce Weird Tales était à la fois un magazine très peu exigeant quant à la qualité des thèmes fantastiques qu'il publiait et d'une certaine littérature, et qui publiait malgré tout des auteurs qui, eux, étaient exigeants sur un plan stylistique. Lovecraft, Smith et d'autres avaient des prétentions et qui les mettaient un peu à part de tout le, toute l'écurie des auteurs. Ils avaient une singularité. Ils écrivaient d'une façon très curieuse, assez précieuse, et Lovecraft même un peu archaïque.
Oui, ben son modèle, c'est la littérature du XVIIIe siècle, en fait. C'est pour ça qu'il est un peu à contre-courant.
Voilà, et dans un procédé d'édition qui favorisait le dynamisme, l'action très rapide, les phrases courtes. En réalité,
Robert Howard,
la littérature américaine que l'on connaît aujourd'hui, des phrases de 15 mots, mais tout va très très vite. Il n'y a pas de belles phrases. Chez Lovecraft, il y a une prétention à la littérature, ce qui l'a fait distinguer très très rapidement par ses pairs et par aussi les lecteurs des peuples, qui se sont rendus compte qu'on aime bien Seabury Queen, ses histoires sont assez intéressantes, mais il y a quelque chose de bizarre chez son voisin, chez Howard Lovecraft. Donc Lovecraft a vécu modestement en partie de rente qu'il devait à son grand-père et de ses revenus littéraires. Il a entretenu une espèce de fabrique littéraire où il corrigeait les textes de ses collègues pour quelques sous. En général, il les réécrivait complètement, il effectuait un travail très pointu. Tout ça n'était pas très rentable. Il a vécu fort médiocrement, malgré tout. Et puis, il est mort dans la misère. Il est mort en 1937, d'un mal qui aurait été curable, certainement, mais il s'est laissé pratiquement. Oui, le cancer. Il aurait pu survivre un peu plus longtemps, probablement, mais il n'a fait aucun traitement. Et il est mort en pensant qu'effectivement, il n'avait pas fait œuvre. Il n'était qu'un écrivaillon de littérature fantastique. Et il était très éloigné d'Edgar Poe, qui était un peu son objectif. Il est mort sans connaître ce qui est arrivé par la suite, c'est-à-dire la célébrité, l'imitation, le pastiche et l'influence sur toute une génération, même plusieurs générations d'auteurs modernes que nous allons retrouver à présent. Et au travers de multiples incarnations, donc les pastiches littéraires, donc des gens qui se sont amusés à écrire des textes très proches de l'origine, des sources, et puis d'autres qui ont digéré cette mythologie cosmique et qui ont produit une œuvre originale. Et enfin, ce qui ne lui était pas vraiment arrivé, mais on peut en parler quand même un petit peu, donc illustration de son œuvre, de son vivant, mais des graphistes ou des gens qui ont travaillé pour la bande dessinée et qui se sont emparés de ces visions cosmiques. Parce que l'œuvre de Lovecraft est aussi très visuelle, elle est littéraire, mais elle est impressionnante. On peut peut-être parler de ce qu'on, avec François, de ce que l'on peut trouver dans une de ses nouvelles les plus célèbres, qui vient d'illustrer, c'est-à-dire la peine de tout, de la force qu'un graphiste peut ressentir en lisant ce texte-là.
L'appel de Cthulhu.
Oui, c'est une nouvelle de célèbre. Je ne sais pas trop comment aborder la question. Parce que c'est très vaste.
Simplement. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans la nouvelle? Le gigantisme, la terreur, la furie des éléments
Non, c'est un tout. Moi, je suis illustrateur. Je travaille beaucoup dans le cinéma comme concept artiste. Un illustrateur qui se met au service d'un film, de la préparation d'un film, des environnements, des décors, de la lumière, de la gamme colorée, etc. Donc j'ai l'habitude de fouiller les univers, c'est quelque chose qui m'amuse, de prendre un univers et d'essayer de fouiller en détail. Et accessoirement, je suis aussi un fan de longue date de Lovecraft, et pour avoir comme beaucoup, quand j'avais plus jeune, joué au jeu de rôle, c'est comme ça que j'ai découvert Lovecraft. Et c'est vrai que depuis cette époque-là, c'était toujours resté dans un coin de ma tête l'idée que ce serait amusant d'en faire un jour une version illustrée. illustrer vraiment l'œuvre comme on peut le voir, par exemple, à l'époque de Jules Verne, qui a une illustration de plus de 500 pages. Lui, il avait fait ça dans des œuvres majeures de son époque. Et j'étais très étonné de voir que personne n'avait relevé le défi, si j'ose dire, de le faire pour l'Ofcraft. Et donc, je me suis dit, ben voilà, j'avais mis ça avec par semaine, je vais le faire. Et après, pourquoi l'appel de Toulouse? Parce que d'une part, c'est la plus emblématique. C'est certainement aussi une des meilleures, à mon avis, en termes de stylistique. Et aussi parce qu'elle est très variée. C'est une nouvelle qui se passe dans beaucoup d'endroits différents, beaucoup d'époques différentes, qui montre des types d'atmosphères qui sont vraiment variés. Peut-être qu'à titre vraiment intime, j'aurais préféré commencer par les montagnes hallucinées, par exemple. Mais les montagnes hallucinées posent deux problèmes majeurs dans mon cas, qui est d'une part, c'est une nouvelle qui est très longue, c'est vraiment un petit roman, donc ça demande beaucoup plus de travail. Et d'autre part, elle est beaucoup moins variée visuellement. Ça se passe entièrement en Antarctique. Sous la neige, dans des glaciers, etc. Donc c'était, je prenais le risque d'avoir une succession de pages blanches. Etc. Et donc l'avantage de l'appel de Toulouse, c'est qu'on a justement une succession de scènes qui vont se passer à New York, dans des cercles scientifiques, ou à l'inverse, en plein milieu du Pacifique, dans les forêts du Bayou, etc. Donc c'était très varié. Ensuite, ce qui, moi, me plaît dans Lovecraft, visuellement parlant, c'est ce mélange entre la belle époque et peut-être pas le surnaturel, mais à la fois le mélange entre le mystère et le spectaculaire. Je trouve que c'est un des rares auteurs qui arrive à ménager dans des visions extrêmement spectaculaires, extrêmement épiques, au sens hollywoodien du terme, qui arrive à ménager quand même du mystère. Il est tombé sur les verres. Je vois qu'il tombe sa peau. Et donc ce mélange comme ça d'atmosphère pas vraiment horrifique, toujours un tour tort de dire que c'est un auteur d'horreur, mais de mystère inquiétant et de vision très spectaculaire, moi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc d'où mon choix de l'appel de tout le monde en particulier.
Si je peux me permettre, simplement pour resituer, parce qu'on ne l'a pas vraiment fait, vous venez de parler d'histoire d'horreur. Je crois que le problème, c'est qu'il y a plusieurs phases, plusieurs veines, disons, d'inspiration chez Lovecraft. Il faut peut-être le rappeler pour ceux qui ne connaissent pas. Au départ, effectivement, son maître à écrire, c'est Edgar Poe. Donc, il a écrit un certain nombre de contes macabres à la manière d'Edgar Poe. Et il a commencé très tôt, parce que ça, son premier texte, je crois, il a écrit, pas publié, évidemment. Ça s'appelle La Bête dans la cave. Enfin, c'est une histoire de régression darwinienne, entre guillemets. Était l'un de ses grands thèmes, c'est selon ça, c'est la crainte de l'involution, de la dévolution par rapport au modèle darwinien d'évolution, justement.
Si je peux me permettre une seconde, cette crainte de la descente, de la régression, est corrélée avec ses problèmes sociaux, puisqu'il était dans un état de régression sociale, chute sociale.
Absolument, oui, son grand-père était un bourgeois aisé, enfin il avait une fabrique, et c'est là d'ailleurs qu'il a découvert, dans la bibliothèque de son père, qu'il a découvert un certain nombre d'auteurs, etc. Et ensuite, tout à fait, il y a une sorte de régression sociale. Donc je termine juste ça brièvement pour situer Lovecraft. L'autre grande inspiration, c'est Lord Anseny, donc un auteur irlandais dont il a suivi une conférence à New York avant les années 20. Donc c'est une deuxième source, ce qu'on pourrait appeler maintenant de la fantaisie, en fait. Bon, c'est le fameux cycle de Kadat, et avec une écriture très onirique. Évidemment, c'est un univers onirique, une écriture très travaillée, effectivement, stylistiquement. Donc assez différent de ces contes macabres dont les plus célèbres peut-être, c'est l'un des plus célèbres, The Outsider, là aussi avec des résonances sans doute un peu autobiographiques, que c'est l'histoire de quelqu'un qui se découvre monstre en se regardant dans le miroir, pour dire les choses très vite. Donc ça c'est la deuxième veine, et ensuite vient, alors l'appel de Cthulhu appartiendrait plutôt à la troisième veine, c'est-à-dire la veine dite mythologique, ce qu'on a appelé, alors improprement, peu importe le mythe de Cthulhu, il appelle ça lui Yoxodotri, etc., Bobby, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, donc ce qu'on oublie souvent. Et donc là, c'est effectivement ce qu'on appelle les grands textes, alors qui relèvent effectivement d'une veine fantastique au départ, et puis qui petit à petit se réorientent vers une sorte de science-fiction conjecturale, d'utopie, etc. Et donc ça, c'est les montagnes hallucinées, justement, avec là une dimension carrément documentaire, mais qu'on trouve déjà dans l'appel du Cthulhu, et on rappelait tout à l'heure l'intérêt de Lovecraft pour le genre policier. On a des structures policières, justement, dans plusieurs textes lovecraftiens, notamment l'appel du Cthulhu, puisque c'est un personnage, c'est pas un détective, mais c'est un personnage qui mène l'enquête, et qui découvre. D'ailleurs, c'est une histoire de livre, en fait. C'est-à-dire qu'on passe de livre en livre, on passe de manuscrit en manuscrit. Il n'y a jamais d'action proprement parlée. Il y a des flashbacks qui nous renvoient à des expériences de personnages qui ont été consignés dans un livre, entre guillemets. Et donc, il y a quand même aussi un personnage de détective dont, d'ailleurs, s'est emparé Alan Moore dans Horror à Red Hook, qui parle de son expérience à New York. Et là, c'est un inspecteur, l'inspecteur Malone, qui mène l'enquête. Donc, il y a bien un lien qui est tout à fait typique de l'époque des années 20 aussi, entre, justement, l'inspiration policière, Black Mask, etc. La revue Black Mask est aussi une revue où ont commencé des auteurs comme Dashiell Hammett, Raymond Chandler, etc., et la veine fantastique, entre guillemets, de Lovecraft. Et la question du genre, mais on pourrait développer beaucoup plus, évidemment, est très complexe, parce qu'on pourrait dire qu'il y a une hybridité générique chez Lovecraft liée à ses différentes sources d'inspiration et aussi à la manière dont il s'inspire du contexte culturel dans lequel il vit. Voilà. Juste pour resituer un peu.
On peut dire que le traitement des histoires de Lovecraft, c'est un traitement fantastique, mais qui fait parfois appel à des références de science-fiction, toute une cosmologie qui... ce ne sont pas des créatures fantastiques, ce sont des créatures physiques qui ont une existence réelle, qui sont inhumaines, mais qui sont biologiques, alors qui sont dotées de pouvoirs et de technologies incompréhensibles, qui sont pratiquement des prédateurs quant à notre espèce, mais qui ne sont pas du tout fantastiques. Par contre, le traitement des épigones de Lovecraft, des continuateurs de Lovecraft, sera toujours plutôt l'inspiration fantastique. Alex, c'est ce qui était...
À Perlet, par exemple, enfin, Lovecraft était quelqu'un qui était donc qui professait un matérialisme foncier. Donc pour lui, ces créatures étaient effectivement venaient d'autres univers, venaient d'autres mondes, mais étaient même si leur matérialité pouvait sembler sujette à caution, elles étaient inscrites dans un réel. Un continuateur important comme Auguste Derleth, par exemple, était quelqu'un de très religieux et a posé sur le... C'est d'ailleurs Derleth qui a créé l'expression mythe de Cthulhu, et il a plaqué dessus des préoccupations religieuses avec des dieux plus meilleurs, des dieux plus mauvais et des entités malveillantes, alors que souvent chez Lovecraft, il n'y a pas forcément... Certaines entités sont malveillantes, mais pas toutes. Certaines sont juste tellement... Elles dépassent tellement dans leur ampleur, notre propre existence, que nous sommes de simples fourmis à leurs yeux, et donc des fourmis qui sont écrasées sans même y penser. Donc il y a cette notion-là chez Lovecraft qui est très importante et qui fait de son œuvre, de cette partie-là de son œuvre, une forme d'horreur existentielle. C'est de renvoyer l'homme à sa petitesse dans le cosmos. Il faut se rappeler que Lovecraft vivait à l'époque où Edwin Hubble a commencé à prendre en compte les dimensions réelles de l'univers. On avait beaucoup de mal à mesurer l'univers, et Hubble découvre que les galaxies sont en fait les nébuleuses à l'époque sont en fait des galaxies extrêmement éloignées. Et là, voilà, et on prend la conscience, la taille de l'univers, c'est quelque chose d'assez nouveau, un peu de l'ordre du vertige pascalien. Et ça, c'est quelque chose que Lovecraft, qui s'intéressait beaucoup à ces choses-là, prend en compte tout de suite et qu'il exprime immédiatement dans son œuvre.
Alors pour cerner le fantastique de Lovecraft, je crois que c'est très important, comme tu l'as fait, de rappeler sa vision scientifique du monde. Je pense qu'il est important aussi de la compléter par sa vision littéraire du monde. Il y a une lettre que je ne saurais qualifier exactement, mais dans laquelle Lovecraft donne sa vision de la littérature, qu'il divise en trois grandes parties. Une littérature qui est centrée sur les personnages et qu'il qualifie de romantique. Une littérature qui est centrée sur les idées et sur les événements, qui ne l'intéresse pas beaucoup. La partie personnage n'intéresse pas énormément. On sait qu'il y a peu de dialogue, il y a peu de relations interindividuelles entre les personnages de Lovecraft. Il est rare qu'il y ait des amours ou des haines très fortes. Il y a plus des relations techniques, des échanges d'informations, des collaborations. Et la troisième type de littérature, qui est celui qui éveille son véritable intérêt, c'est une littérature centrée sur l'atmosphère, qui, selon moi, recouvre en grande partie, ou ça se recouvre mutuellement, la notion de littérature fantastique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une notion d'ingrédient à introduire, de tel ou tel type de créature surnaturelle qui doit être présente, mais dans la prédominance d'une atmosphère. Donc là, on retombe sur... quelqu'un dont je ne suis pas extrêmement fan, qui était Jacques Bergier, et qui disait que Lovecraft avait inventé, je trouve la formule très brillante, avait inventé le conte matérialiste d'épouvante. Voilà, je trouve que là, on cerne en trois mots quelque chose d'assez important.
Peut-être, En fait, il y a d'original aussi. Alors, c'est un autre concept, pareil, valise, entre guillemets, qui permet de dire beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle le régionalisme cosmique de Lovecraft. C'est-à-dire que la création, d'un côté, donc, toute une série de villes imaginaires qui sont inspirées de villes réelles, notamment Providence, donc Arkham, hein, dont la plus célèbre, ou Dunwich, etc. Donc, en fait, une nonirisation et, on pourrait dire aussi, certaines manières de montrer un envers du décor effectivement monstrueux, comme dans le cauchemar d'Innsmouth par exemple, on s'aperçoit que les habitants d'un petit port autrefois prospère, en fait, on s'aperçoit qu'ils ont été prospères parce qu'ils ont fait commerce avec des entités, justement, sous-marines, etc., et que ça a donné lieu à une hybridation. Donc, autrement dit, quelque chose qui paraît relativement normal, entre guillemets, on découvre petit à petit qu'il y a un en-dessous. Voilà. Cette question de l'en-dessous est absolument capitale chez Lovecraft. Donc ça, c'est le côté régionalisme. C'est-à-dire c'est ancré dans une région bien spécifique de la Nouvelle-Angleterre, comme plus tard Stephen King. Hein. Et d'un autre côté, il y a ce côté cosmique hein, dont on parlait avec Hubble, c'est-à-dire des visions, disons, spatio-temporelles extraordinaires qui déplacent, il parle toujours de cosmicisme, hein, donc du bord de l'univers, etc. Ces personnages, ces entités viennent non pas simplement d'une planète quelconque comme Pluton qui a été découverte en 1930 et que Lovecraft utilise d'ailleurs, mais elles viennent d'espaces intergalactiques extrêmement lointains, mais elles viennent aussi bien d'un passé extrêmement ancien que d'un futur extrêmement lointain. Donc il y a une espèce de là aussi de comment dirais-je, de fusion un petit peu des temporalités. Et là encore, il y a quand même une référence scientifique évidente, hein, c'est les théories d'Einstein, hein, qu'il connaissait très bien, dont il parle, les lois de la gravitation, les lois de la relativité, la relativité restreinte, pardon, et la relativité généralisée, dont il parle dans sa correspondance. De la même manière qu'il renouvelle le motif de la sorcière, je termine là-dessus, dans les rêves de la maison de la sorcière, en faisant une sorcière qui s'intéresse à la quatrième dimension et qui, par des équations mathématiques, permet de passer dans la quatrième dimension. Donc une sorte de fusion d'un modèle très archaïque et très conventionnel avec justement des perspectives beaucoup plus modernes. Et ça, voilà, donc cette idée de régionalisme cosmique qui peut paraître comme une sorte de paradoxe, d'oxymore, est tout à fait caractéristique de Lovecraft et c'est aussi une de ses originalités, je pense.
Et comment cet auteur qui a publié dans un pulp mineur est-il arrivé à devenir une icône moderne ? Quelle est l'histoire qui a permis à l'émergence de tout ce mythe ? Qui veut en parler ?
Très brièvement, voilà, moi ce que je dirais à ce propos, c'est que il y a un petit cocorico à faire tout de même, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens en France qui ont connu Lovecraft assez précocement. Hein. Je mentionnais tout à l'heure Jacques Bergier. Jacques Bergier est quelqu'un qui a connu Lovecraft avant la Seconde Guerre mondiale à travers la lecture de Pulp, des numéros de Weird Tales, qui est arrivé jusqu'à Paris, et qui a écrit une lettre à Weird Tales pour dire que Lovecraft était vraiment un super auteur et qui a écrit une autre lettre au moment où on a annoncé la mort de Lovecraft pour dire que la littérature venait de perdre un grand auteur. Donc voilà, Bergier a dit qu'il lui avait fallu 50 ans d'efforts pour faire connaître Lovecraft au public français. Il a fini par y arriver. En France, Lovecraft a été salué par des gens comme Cocteau. Alors après, il y a des éléments un petit peu critiquables dans cette première arrivée de Lovecraft sur le marché littéraire français, à travers des traductions un peu bizarres, des traducteurs qui pensaient qu'il fallait améliorer le texte de Lovecraft. Mais en tout cas, ça s'est fait. Et puis, pendant qu'il y avait la maison d'édition Arkham House aux États-Unis, qui avait été fondée par Auguste Derleth, dont on parlait tout à l'heure, ami et continuateur de Lovecraft, un petit peu traître sur les bords, mais enfin ami quand même, et Donald Wandry, un autre ami de Lovecraft, qui essayait, malgré des grosses difficultés financières, qui essayait de publier en recueil l'intégralité des textes de Lovecraft qui menaçaient d'être perdus, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le papier pulp se conserve mal. Si vous avez des exemplaires de Weird Tales entre les mains aujourd'hui, ben vous avez intérêt à bien y faire attention, parce que le papier part en lambeaux. Et donc Arkham House vivotait, alors qu'en France, Lovecraft était publié chez De Noël dans la collection Présence du Futur, ce qui n'était pas rien, hein, le numéro 1 de la collection. Alors, je ne sais plus, il y a eu les Chroniques martiennes de Bradbury et il y a eu la couleur tombée du ciel de Lovecraft. Quoi. Donc voilà, c'était quand même des grandes choses.
En grand format, il y a des rééditions.
Oui.
Donc c'est signe que les bouquins de Lovecraft sont bien vendus. Pas le cas par exemple, des œuvres de science-fiction. Première présentation de Présence du Futur,
Il n'y a qu'une édition, il y a même des rebrochages ensuite. Or, Lovecraft, je suis d'ailleurs, il y a deux impressions, deux tirages.
Et à un moment, pour faire court, il y a eu une certaine surprise des Américains qui ont débarqué à Paris et qui se sont rendus compte qu'à Paris, on connaissait Lovecraft, qu'il était imprimé, publié et vendu. Et qu'il y avait des intellectuels qui s'intéressaient à lui, hein, puisqu'il y a eu un exemplaire des très intellectuels Cahiers de Lerne, qui parlaient habituellement de gens comme Joyce et Borges, et qui se sont consacrés, avec plus ou moins de bonheur, mais peu importe, à Lovecraft. Donc on peut dire que Lovecraft a fait un détour par notre pays, avant de revenir dans son pays d'origine. Et puis évidemment, ce qui plaît en France en général inspire des gens dans les pays latins qui nous entourent, en Italie, en Espagne et dans le reste de l'Europe continentale, surtout avec une aura d'intellectualité. Et puis bon, le flambeau a été ensuite repris aux États-Unis non seulement par le biais de la littérature proprement dite, mais aussi à travers des éléments de culture populaire qui sont les jeux, la musique, des tentatives d'adaptation au cinéma, etc.
Oui, on pourra continuer sur le cinéma après, je ne sais pas.
On peut l'évoquer immédiatement.
Bon, d'accord, alors je viens l'évoquer à ce moment-là. Alors cinéma, c'est une histoire compliquée, parce que là, ça rejoint des questions d'illustration, je pense, de représentation, puisqu'il y a deux approches de Lovecraft qui sont toutes les deux fausses, à mon avis, de dire d'une part qu'il décrit très peu ses créatures, qu'il part toujours de suggestions, etc., que des choses restent dans un hors-champ, pour utiliser un terme cinématographique, ou au contraire qu'il décrit de manière excessive, etc. D'ailleurs, certains critiques ont critiqué Lovecraft sur son écriture grasse, son abus d'adjectifs, d'adverbes, etc. La réalité est un peu entre les deux, c'est-à-dire que d'une part, il y a des descriptions parfois chez Lovecraft très, très précises, y compris scientifiques, dans les montagnes hallucinées, mais surtout, il décrit beaucoup pour montrer qu'on ne peut pas décrire, pour dire que c'est indescriptible, que c'est innommable, c'est indicible, etc. Et d'ailleurs, ce qui est très important aussi, je crois, c'est, dans l'appel de Tulu, par exemple, c'est d'évoquer les circonstances de la vision de telle ou telle créature qu'on voit justement qu'on pourrait dire à travers un miroir confusément, littéralement, c'est-à-dire qu'on est tellement fasciné par ce qu'on voit ou terrifié par ce qu'on voit qu'on n'arrive plus à décrire engagement et on est obligé de décrire par métaphore, par antiphrase, en disant ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, ou c'est une accumulation de ceci et de cela. Et du coup, effectivement, pour le cinéma, ça pose plus de problèmes peut-être que pour l'illustration. Donc ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est que pour un cinéaste, qui recherche une histoire qui va intéresser un public un peu large. Donc il y a très peu de femmes, effectivement. Les femmes ont des rôles extrêmement précis et limités pour en parler. Souvent des femmes dégénérées, des sorcières, etc. Mais pas vraiment. Il n'y a pas de relation amoureuse. Il y a très peu de sentiments, comme on disait. Donc très peu de personnages, de fait. Donc comment rendre compte d'un univers lovecraftien avec en plus la nécessité d'évoquer des créatures donc, qui viennent de l'hyperespace et qui ne ressemble à rien de connu, etc. Et donc, comment faire ça avec des moyens relativement limités? À une certaine époque, les effets spéciaux étaient relativement limités. Donc, c'est une gageure pour un cinéaste, pour un scénariste déjà. Comment rendre compte d'un univers lovecraftien qui ne comporte pas ces éléments de narrativité, disons? Et d'autre part, comment pour un chef opérateur, pour un responsable des effets spéciaux, etc., comment rendre compte de ça? Donc ça pose déjà un certain nombre de problèmes, ce qui fait qu'il y a relativement peu d'adaptations, on va dire, littérales de Lovecraft. Il y en a quelques-unes, mais c'est souvent plutôt des emprunts. Alors, je vais juste donner un ou deux exemples hein, pour ne pas prendre trop de temps. Roger Corman est connu, par exemple, pour ses adaptations d'Edgar Allan Poe dans les années 60, avec un cycle donc, de American International Pictures, hein, donc un petit studio. Il a adapté donc plusieurs histoires de Poe, souvent d'ailleurs en mélangeant des histoires. Donc le plus connu étant le premier, La chute de la maison Usher, et l'un des derniers, Le masque de la mort rouge. Mais il a aussi adapté un texte de Lovecraft qui est en fait le cas de Charles Dexter Ward, qui est le seul roman effectif de Lovecraft, mais présenté comme The Haunted Palace, sur le palais hanté, qui est en fait un poème intégré dans un texte d'Edgar Poe, dans La chute de la maison Usher. Autrement dit, on s'est servi de l'image de Poe pour finalement faire une adaptation de Lovecraft. Et en fait, quand on regarde le film d'assez près, on s'aperçoit qu'il y a autant de Poe que de Lovecraft dans le film. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Il y a eu dans les années 70 des tentatives, par exemple, d'adapter la Dunwich Horror, qui sont en général des tentatives un petit peu ratées. Voilà. Alors, je vais donner juste un exemple d'adaptation qui me semble réussie, donc toujours le cas de Charles Dexter Ward. C'est en fait Dan O'Bannon, le créateur des effets spéciaux de Alien, et donc Alien évidemment a des aspects Lovecraftiens aussi, qui a fait une adaptation de Charles Dexter Ward dans les années 90, qui est une adaptation tout à fait remarquable, où il rend même compte, ce que ne fait pas tellement Corman, de l'aspect historique, c'est-à-dire en fait c'est une histoire de sorcier hein, qui veut se réincarner dans l'esprit de son descendant, dans le corps de son descendant, en envahissant son esprit par le biais d'un tableau animé, etc. Et donc, il y a tout un épisode qui se passe au XVIIIe siècle, à l'époque puritaine, où ce sorcier est perdu. Et donc, Dan O'Bannon a réussi à recréer cette ambiance puritaine. Et puis, avec les moyens de l'époque, au début de l'animatronique, hein, c'est à peu près à l'époque de The Thing de Carpenter, par exemple. Mais c'est bien avant, bien sûr, l'image numérique. Il arrive à rendre compte de manière assez convaincante des créatures monstrueuses qui sont fabriquées par ce sorcier dans les souterrains de sa maison. Voilà, donc ça c'est un exemple relativement réussi, mais pour en terminer, ou peut-être qu'on rebondira là-dessus ou d'autres, je pense que les meilleures adaptations de Lovecraft sont en fait des réécritures de motifs lovecraftiens, par exemple dans la trilogie de Carpenter, The Thing, qui s'inspire un peu des montagnes hallucinées, Prince of Darkness, qui est une histoire d'entité qui va envahir, une entité qui vient d'entité diabolique, d'antidieu en quelque sorte, qui trouve un moyen de revenir dans le monde des humains, donc c'est un thème lovecraftien. Et puis, peut-être le plus lovecraftien explicitement, dans l'antre de la folie, où là, il y a un double hommage à Stephen King, évidemment, parce que c'est un auteur de romans à succès, ce que n'était absolument pas Lovecraft. Mais par contre, il y a énormément de motifs lovecraftiens, les villageois dégénérés, les monstres qui sont dans une sorte d'hyperespace, et jusqu'à la lecture d'un texte qui est une sorte de pastiche, dont tu parlais de pastiche tout à l'heure, de pastiche lovecraftien. Donc voilà, on est plutôt dans ces moments-là. Alors, j'évoque un dernier exemple, c'est Guillermo del Toro, dont la Hellboy contient, entre autres choses, une créature lovecraftienne assez remarquable dans la séquence ouverture. C'est un nom un peu accouché dehors, Obuge Jagral ou quelque chose comme ça, qui est assez réussi sur le plan plastique, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis qui voulait effectivement faire une adaptation des Montagnes hallucinées avec Brad Pitt. Et puis le projet pour Universal. Et le projet est tombé à l'eau pour l'instant, mais je crois que Del Toro ne désespère pas. Voilà. Et puis, quand même, un réanimateur, Stuart Gordon, qui est quand même quelqu'un de très important. Stuart Gordon, alors dans une veine plutôt parodique, effectivement, avec From Beyond, etc., Réanimateur, Réanimateur 2, etc., mais aussi des tentatives d'adapter Les rêves de la maison de la sorcière, le cauchemar d'Innsmouth, etc. Donc il y a quand même toute une tentative de ça. Et puis il ne faut pas oublier aussi un festival quand même, ça c'est assez original et rare. Il existe un festival de cinéma entièrement consacré à Lovecraft, où il y a donc justement une société, une sorte d'association d'amateurs et d'admirateurs de Lovecraft qui organise un festival tous les ans, donc à Portland je crois, où on montre des longs métrages et des courts métrages lovecraftiens. Voilà, j'étais un peu long, mais je voulais faire une sorte de synthèse.
Là nous avons abordé le domaine de l'image, et effectivement on peut dire qu'aujourd'hui la connaissance de Lovecraft est véhiculée par l'image, parce que la littérature s'est emparée quelque peu de son œuvre après sa mort, mais sans grand retentissement. Par contre, depuis bonne vingtaine d'années, les graphistes se sont emparés de la mythologie lovecraftienne. Et François a évoqué les jeux de rôle avec lesquels il est rentré en connaissance de ce monde. Mais il n'y a pas eu que les jeux de rôle. Il y a des tas d'illustrations, et les Américains ont produit des comic books inspirés par l'œuvre de Lovecraft dans une grande veine de renaissance du fantastique américain. Et ces publications-là n'ont pas peu contribué non plus à la popularisation auprès des nouvelles générations de l'œuvre de Lovecraft.
On citait Hellboy, mais Hellboy au départ c'est un comic book signé Mike Mignola qui revendique pleinement, et d'ailleurs à un moment nommément, la filiation avec Lovecraft. Mais ça va même plus loin qu'une vingtaine d'années, parce que dès les années 70, on a en Argentine Alberto Breccia qui fait de très très belles adaptations de Lovecraft, entre autres Un cauchemar d'Innsmouth ou La vie, qui est absolument magnifique. Il y a aussi Andreas, dans le domaine franco-belge, dont Rorke, par exemple, la série Rorke emploie énormément de motifs lovecraftiens, ne serait-ce que la maison au bord de la falaise, exposée à des influences périodiques et cosmiques, et aussi son Cromwell Stone, dont le premier roman graphique de la série Cromwell Stone est un pur hommage à Lovecraft, qui le cite d'ailleurs en exergue. Mais c'est de toute façon un réservoir de motifs et de tropes narratifs dans lesquels les auteurs de bande dessinée piochent allègrement depuis au moins, je dirais, une petite quarantaine d'années.
Si je ne me trompe pas, Andreas a même réalisé une biographie de Lovecraft.
Il y a eu un petit texte en fait sur la rencontre entre Lovecraft et Robert Barlow dans les Révélations posthumes. Voilà. Il y a aussi un récit sur Jules Verne, un autre sur Agatha Christie, mais il y a un petit récit de 6 ou 8 pages sur Barlow et Lovecraft.
Donc là, on est dans le plein travail graphique de l'adaptation du mythe en bande dessinée, ce qui est un peu votre partie, tout cette imagerie et le développement en deux dimensions de toutes les créatures lovecraftiennes. Et cet aspect-là de votre travail a beaucoup impressionné les jeunes générations. Aujourd'hui, si l'on connaît Lovecraft, c'est un peu de la même façon que quand on connaît Tarzan. C'est par l'image, par le cinéma, par la bande dessinée.
Je dirais même qu'il se passe pour Lovecraft ce qui s'est passé pour Tarzan, qui est réduit à sa version la plus iconisée, à la version du cinéma. C'est-à-dire que Tarzan n'est pas du tout une brute épaisse. C'est quelqu'un qui est effectivement très puissant physiquement, mais qui est aussi extrêmement intelligent, ce que les versions cinématographiques ne font pas forcément passer. C'est ce qui s'est passé. Là, on a Patrice Louinet sur le salon qui pourra nous en parler longuement sur Conan le Barbare, qui effectivement réduit à l'image du barbare, alors que là aussi, Conan est un personnage extrêmement complexe et riche, mais qui a été, que la bande dessinée et le cinéma ont un petit peu réduit pas forcément une caricature, mais à une silhouette. Et Lovecraft, il y a ça aussi, c'est la réduction à l'aspect purement horrifique, alors que derrière, il y a des aspects extrêmement philosophiques qui sont intéressants dans l'œuvre de Lovecraft. Si on met de côté le problème de ses convictions politiques, sur lesquelles on pourrait faire une conférence entière, et qui sont très complexes, il y a de toute façon, en termes de philosophie, autant il est extrêmement conservateur et rétrograde, c'est quelqu'un qui, dans une de ses lettres, explique que la civilisation était fichue à partir du moment où on a arrêté de porter la perruque poudrée. C'était un signe. Il le dit. On ne sait pas s'il le dit sérieusement ou avec... C'est quelqu'un, comme on le disait, qui avait beaucoup d'humour, mais... Il y a peut-être du second degré dedans, mais pas que. Je pense que c'est quelque chose qu'il croyait sincèrement, et qui, d'un autre côté, est extrêmement moderne, dont son matérialisme radical est d'un modernisme et presque d'un nihilisme très impressionnant, de ce point de
vue-là. Juste pour rajouter une chose par rapport à ça, quand même, il a été inspiré par un livre d'Oswald Spengler qui s'appelle Le déclin d'Occident, pardon. Et donc, il le cite énormément dans ses textes. Et donc, pour lui, effectivement, on est à un moment de décadence, hein, très clairement. Et c'est pour ça que son modèle, c'est le XVIIIe siècle. Bon, et après, donc, c'est très contradictoire, parce qu'il a totalement de son temps à certains égards, et en même temps, totalement antimoderne, effectivement.
Voilà. Oui, et c'est intéressant de mettre en contraste cette vision qu'il avait d'une sorte de décadence ou de déclin des civilisations humaines, et sa soif pour le progrès et la connaissance du progrès des sciences, qui, à un moment, dit-il, l'a sauvé du suicide, parce qu'il voulait voir ce qui allait venir. Il voulait voir ce qu'on allait découvrir au pôle, au cœur de l'Afrique, etc. Qu'allaient donner les théories d'Einstein, enfin, tout un tas de thèmes qu'il avait envie de suivre. Donc, il y a d'un côté cette vision négative, et puis, en même temps, cette foi, finalement, dans les progrès de l'esprit humain. Tu parlais de son modernisme philosophique par ce côté matérialisme, mais c'est un matérialisme qui s'appuie beaucoup sur des sources du 19e siècle, comme Haeckel, hein, le grand popularisateur de Darwin en Allemagne et en Europe continentale, et également un philosophe des sciences qui s'appelait Hugh Elliott, qui avait écrit un traité sur le matérialisme et qui l'avait beaucoup influencé. Donc c'est un matérialisme à la façon des sciences de la fin du 19e siècle, qui est mis en appétit par toutes les découvertes en cours et la perspective que peut-être on va réussir à boucler tout ça et finalement à boucler le cercle de la connaissance humaine à travers les derniers progrès de la physique, de la chimie, des théories atomiques. Bon, évidemment, Einstein, après, est venu un peu dynamiter cet espoir, mais au moment où il a tout ça en tête, on n'en est pas encore là.
Oui, alors il y a un autre paradoxe aussi, avant de revenir peut-être à... C'est justement que d'un côté, il s'intéresse beaucoup à la science, etc., et il a une certaine opinion de l'importance du savoir humain, et en même temps, dans ses textes, en tout cas, l'image qu'il donne de l'homme, c'est justement, littéralement, un petit point dans l'immensité, comme il dit, un individu qui a été créé par erreur ou par jeu, et qui est appelé à être supplanté par des créatures dont certains seront des insectes. Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle son relativisme cosmique. Hein, là aussi, c'est un autre concept. C'est-à-dire que l'individu est réduit au plus petit dénominateur commun, si je peux dire. Donc, il y a à la fois un grand mépris, en quelque sorte, pour l'homme, et en même temps, un appétit de savoir, effectivement. Donc, il y a une contradiction totale à ce niveau-là. Et je donne la parole de suite après. Je voulais juste rappeler Alan Moore... voilà, je pense que tout le monde connaît Alan Moore ici. Je vous conseille donc la lecture je pense qu'une des plus belles adaptations en bande dessinée de Lovecraft récente, hein, je parle pas de c'est Providence en 3 tomes, qui est absolument extraordinaire parce que et qui redonne de manière d'ailleurs assez gonflée et provocatrice beaucoup de place au texte et au manuscrit dans ce qui est normalement de la bande dessinée, c'est-à-dire qu'on a effectivement des passages en bande dessinée. Mais on a aussi des longues pages de textes qui en fait redisent d'une autre manière, redupliquent ce qu'on a lu dans les planches en bande dessinée, et donc qui rend hommage aussi, si on peut dire, au style Lovecraftien, justement, puisque c'est écrit en manuscrit, en lettres manuscrites. Donc c'est tout à fait original, je trouve, cette manière de voilà. Donc il y a Neonomicon d'Alan Moore et il y a donc le Providence en 3 volumes qui vient de sortir.
Donc on le voit, cet intérêt pour Lovecraft est porteur de futur et peut-être même de retour sur le passé, parce qu'on assiste depuis peu à des retraductions. On sait, bon, l'édition française a frappé le lectorat, a frappé les imaginations. Ceci dit, elle est relativement fautive. Les traductions, on l'a évoqué, ont été améliorées parce que justement l'écriture archaïque de Lovecraft n'a pas été comprise comme elle devait l'être.
Il y a parfois aussi gros contresens.
Donc on s'attache à présent à essayer de rendre l'œuvre de Lovecraft au plus près du sens originel. Et donc il y a des projets qui sont, je crois, en cours.
Ah ben le David Camus pour les éditions Nemo, ça fait un énorme travail de retraduction qui est encore en cours. François Bon, il y a eu des discussions là-dessus sur... François Bon, pour Le Seuil et aussi en parallèle pour sa propre maison d'édition, le Tiers-Livre, fait un énorme travail, non seulement de retraduction des textes, mais aussi des correspondances, les carnets de Lovecraft, entre autres, pour les gens qui s'intéressent, il y a le Common Place Book, qui était le carnet de notes de Lovecraft, qui a été traduit par François Bon, et qui est très intéressant, parce qu'on voit vraiment les notes jetées sur le papier et dans leur jus, et on y devine les préoccupations les plus brutes du personnage, mais aussi les germes de pas mal de choses qu'il va faire par la suite. Donc il y a tout un travail à la limite exégétique autour de Lovecraft qui est en cours. Et bon, par ailleurs, les éditions Bragelonne aussi, avec notamment l'édition illustrée. Donc Lovecraft est libre de droit depuis assez récemment. Oui. Pour la plupart des textes, certains textes qui ont été publiés un peu plus tard ne sont pas encore là-dedans, entre autres l'histoire du Necronomicon, sauf erreur de ma part. Mais l'essentiel des grands textes est maintenant libre de droit. Donc tout le monde peut s'en emparer et travailler dessus. Donc, ce qui permet aussi des propositions de traduction intéressantes. Et puis là, peut-être que Christophe peut nous en parler, la Yoshi.
Oui, alors il y a un grand spécialiste de Lovecraft qui est quelqu'un qui lui a consacré, je ne dirais pas sa vie, parce qu'il a aussi travaillé sur d'autres thèmes, comme l'athéisme dans la littérature et des choses comme ça. Mais donc c'est S.T. Joshi qui a poussé le vice, si j'ose dire, jusqu'à venir de son Inde natale, étudier à l'université Brown de Providence, afin d'être dans le milieu où Lovecraft était et de pouvoir accéder directement à ses manuscrits. Donc les manuscrits comportent bien entendu des manuscrits de fiction, mais également beaucoup d'autres choses, et bien sûr la correspondance. Joshi est une des rares personnes au monde qui est capable, enfin bon, on est un peu obligé de lui faire confiance là-dessus, mais en tout cas, qui est capable de comprendre l'écriture de Lovecraft, qui est souvent illisible, surtout quand elle est écrite en lignes tordues et enroulées sur le dos d'une vieille enveloppe, au crayon légèrement effacé. Donc ça nécessite une certaine dextérité. Ça a permis à Joshi de corriger les anciennes éditions, y compris les éditions anglaises, hein, je ne parle pas des versions françaises, mais les éditions américaines des textes de Lovecraft dans lesquels certains mots avaient été carrément mal transcrits. Il est donc l'auteur d'une biographie très importante, à la fois en importance et en volume, de Lovecraft. qui est paru originellement en 96 chez Necronomicon Press en un volume, mais la version intégrale faisait en réalité deux volumes. Donc il a dû attendre quelques temps avant de pouvoir publier cette version intégrale, qui évidemment entre-temps a été mise à jour. Donc la publication s'est faite, je crois, en 2010 sous le titre « I am Providence ». C'est une citation de Lovecraft, hein, pour dire à quel point il s'identifiait à sa ville de Providence. « I am Providence and Providence is myself ». Et il a été donc décidé, par les éditions LQSF, de publier cette méga biographie en version française. Donc la parution est prévue pour 2019. Le travail de traduction, qui va être considérable, va s'étaler sur l'année 2018. Il va être fait, sous ma direction, par une équipe de traducteurs, qui sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, non seulement en tant que traducteur, mais aussi en tant que personne. Hein, ça aide pour travailler ensemble. Et on attend, alors j'ai déjà eu quelques éléments au niveau graphique. On attend déjà un très beau, matériellement, un très beau livre. Et puis, bien entendu, le contenu, alors c'est très simple, il y a à peu près tout dedans. C'est-à-dire que Joshi s'est basé non seulement, bien entendu, sur l'intégrale des textes de fiction, mais aussi sur tout ce qu'il a pu trouver comme correspondance, et il a pu en trouver pas mal, et donc de manière à entourer chaque histoire d'écriture et publication de chaque texte, de tout le halo de circonstances, d'influences, également les références à ce que différents critiques ont pu en dire par la suite. Et puis ça commence avec les origines de la famille Lovecraft, et ça se termine avec les influences sur les choses les plus récentes à la date de 2010, qu'on peut, parce qu'évidemment c'est une histoire sans fin, hein, mais il a bien fallu arrêter un moment, donc le moment c'est la parution de la version originale en 2010. Donc ça se termine à cette période là pour tout ce qui est évocation de textes, d'univers dérivés, de livres, de jeux de rôle, de jeux vidéo, etc., et de films, de musique, et l'influence dans les différents pays. Voilà.
Bien. Eh bien, nous allons devoir conclure. S'il y a des questions, n'hésitez pas à lever un tentacule. Tout simplement, oui, en voilà plusieurs.
Oui.
Un ami
avait donné à Pierre Bertin carte de Lovecraft,
alors attention, une carte postale écrite pour un ami, écrite donc pour être lue, c'est pas tout à fait pareil que des notes prises pour lui-même. Et en particulier, voilà, son fameux, je crois que François Bon l'a publié également, son fameux carnet de je ne sais plus quelle année, quand il est à New York, et où il écrit avec une espèce de quasi-sténographie, en très résumé, le résumé de ses promenades du jour, de ce qu'il a mangé, de ce qu'il a fait, de comment il s'est ennuyé ou comment il s'est amusé, etc. Et là, il faut savoir que les gens sont désignés par une lettre initiale, les mots se télescopent. Donc voilà, effectivement, il y a plusieurs... quand il s'agissait d'écrire une version manuscrite d'une nouvelle à publier, quand il n'avait trouvé personne pour la dactylographier, il faisait évidemment des efforts de lisibilité, ce qui n'empêche qu'il y avait parfois certaines lettres sur lesquelles une confusion était possible. Donc l'anecdote, c'est qu'il y a, dans la recherche de Kadat, il y a une race de créatures qui s'appelle, ou qu'on a connu comme s'appelant les Dôles. Eh bien, Joshi a découvert que c'était en réalité les Bôles. Voilà.
Voilà. Je peux rajouter juste un dernier mot, peut-être. C'est pour renvoyer d'une part au site de François Bon, donc il est beaucoup question de Lovecraft, et vous aurez des extraits de choses qu'il a travaillées, enfin, traduites, d'une part. Et d'autre part, pour dire aussi très rapidement qu'il y a une sorte d'intérêt de Lovecraft, il y a bien au-delà des adaptations en BD, etc. Certains philosophes, en particulier Graham Harman, essaye de donner, enfin de redonner une aura philosophique, si on peut dire, au texte de Lovecraft, en retravaillant ses concepts justement sur le matérialisme, etc., en renvoyant à des auteurs comme Husserl, d'autres philosophes, donc, autour de la question de l'objet, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un objet? Comment on définit un objet, etc.? Et la question de l'objet, effectivement, de l'objet indéfinissable, justement, composite, hybride, etc., etc., est une caractéristique qu'on trouve beaucoup dans les textes de Lovecraft. Donc il y a une sorte de... Alors peut-être excessif, hein, mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez voir le nombre de remarques, de textes incroyables qu'il y a autour de la philosophie lovecraftienne, de la cosmogonie lovecraftienne, etc. Et puis il y a évidemment un certain nombre d'élucubrations on va dire, occultistes, ésotéristes, etc. Ça a commencé dans les années 50, comme on disait, et il y a une sorte de regain aussi de ce côté-là. Donc on a de tout, on a des choses extrêmement sérieuses, et on a des trucs complètement farfelus. Et c'est ça aussi qui appartient, qui relève de la mythologie lovecraftienne, je pense.
Absolument, ça relève de cette richesse dont les éditeurs nous promettent une belle continuité, parce que l'auteur et le mythe sont intéressants et génèrent beaucoup de volumes. On nous en promet beaucoup. Bragelonne a consacré beaucoup d'énergie à publier, en plus du magnifique album de François, toute une série de volumes autour de Lovecraft. Les petits éditeurs aussi de l'imaginaire s'activent et on nous promet des rendez-vous réguliers avec Lovecraft, donc, et même le Visage Vert, qui est un petit éditeur fantastique, vient de sortir cet acte présenté par Gilles.
Donc voilà, c'est un ouvrage sur Lovecraft et l'image, Lovecraft et l'illustration, donc cinéma BD, mais aussi l'image dans le texte.
Nous allons vous remercier pour votre attention et remercier vos amis pour votre attention. Merci beaucoup.